Vous êtes venu pour entendre parler de la Révolution française, le jour où Saint-Antonin fête sa fête votive annuelle, et elle a lieu, elle se déroule, mais elle comprend cette conférence. Pour cette conférence qui est la dernière que nous proposons les amis du vieux Saint-Antonin cet été, nous avons choisi de présenter un duo d'orateurs. D'abord parce que c'est la loi maintenant de respecter en toutes circonstances la parité. Donc c'est une des raisons, mais l'autre c'est que celle qui a proposé en premier de faire une conférence sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est Laure Mézières, que vous connaissez peut-être pas tous encore, puisqu'elle est arrivée au collège il y a seulement 3 ans, à peine 3 ans. Elle est professeure d'histoire au collège, très entreprenante, elle racontera peut-être elle-même ce qu'elle a fait dans le débat, déjà. Mais elle a rejoint notre société des amis et s'intéresse à l'histoire moderne. Et c'est ce qui a fait qu'elle a rencontré sur ce sujet Jean-Pierre Amalry, qui est un professeur de l'Université de Toulouse, émérite, qui est lui aussi spécialiste d'histoire moderne et qui nous a accompagnés, vous le savez tous, depuis déjà bien longtemps dans les conférences que nous faisons. Il est même, je dirais, l'auteur de l'idée de ces conférences, il y a déjà 2 ou 3 ans de ça. Voilà, donc je vais leur laisser la parole. C'est Laure qui a préparé l'essentiel de la conférence, mais c'est Jean-Pierre qui va l'introduire, s'il le veut bien.
Merci, Monsieur le Président, et merci de nous avoir associés. Moi, je suis très heureux que Saint-Antonin soit enfin pourvu d'une historienne de qualité, ça, il y en a une autre, mais qui est soucieuse de s'intéresser à l'histoire locale et régionale et de diffuser autour d'elle, à ses élèves, j'espère quand même, à vos élèves, oui, mais aussi à un public d'élèves un peu montés en graines, comme le public d'aujourd'hui, le savoir qu'elle peut collecter. Alors, elle vous expliquera que l'intérêt qu'elle a ressenti pour la Révolution procède de travaux anciens et non publiés, apparemment, de Georges Julien, la figure emblématique qui a présidé pendant de longues années la Société des Amis. Et je pense que c'est intéressant, effectivement, de diffuser les travaux, les résultats auxquels était parvenu ce chercheur, car c'était un vrai chercheur, je l'avais connu, on lui a rendu hommage d'ailleurs cette même année. Et c'était un chercheur qui se souciait de s'appuyer sur les documents, et en particulier sur les documents des archives locales de Saint-Antonin, qui à l'époque étaient conservés ici même et qui ont été, je le rappelle, transférés maintenant aux archives départementales à Montauban. Alors, nous allons parler de la Révolution à Saint-Antonin, et c'est Laure Mézières qui va faire le point sur ce qu'elle retient donc des travaux de Georges Julien. Je voudrais simplement, en préambule, situer l'état de la ville dans les années qui précèdent la Révolution, sur 2 ou 3 aspects qui me semblent importants et sans prétendre d'ailleurs être exhaustif. Je rappelle que le premier point, je renvoie à la conférence qui avait été donné l'an dernier par Jean-Baptiste Faulle sur le siège de Saint-Antonin. Je rappelle que Saint-Antonin se définit à l'époque moderne d'abord comme une ville protestante. Cette ville protestante, comme tous les autres centres huguenots du royaume, a été convertie de force en 1685, un peu plus d'un siècle avant la Révolution, donc, et le protestantisme n'y est demeuré que comme une réalité familiale, plus ou moins clandestine, pendant longtemps, dont les cultes se tenaient au désert, comme on disait. Le désert ici, apparemment, c'était le cirque de Nibouzou, d'après les quelques témoignages que l'on a, et légalement, les protestants ne refont surface à Saint-Antonin, comme ailleurs dans le royaume de France, que 2 ans avant la Révolution, en 1787, avec l'édit de tolérance de Louis XVI. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir si, lorsque va éclater la Révolution, et le clivage qui a si longtemps distingué et même violemment opposé au temps des guerres de religion, les protestants et les catholiques, ce clivage est perceptible dans l'espace public. La question mérite d'autant plus d'être posée dans le cas de Saint-Antonin qu'on sait que dans des villes voisines, ce fut le cas. Et en particulier, je citerai l'exemple de Caussade. Nous avons parmi nous Mme Catherine Langlais qui vient de terminer un travail important qui embrasse notamment la période de la Révolution à Caussade et qui montre à quel point, à Caussade justement, l'opposition protestante-catholique ressurgit avec une très grande force pendant la Révolution. On peut même dire que Caussade passe vraiment à ce moment-là sous la coupe de la bourgeoisie protestante de la ville et avec toutes les conséquences qui en découlent. En va-t-il de même à Saint-Antonin ? Nous aurons à nous poser la question. Ce n'est pas évident, ce qui prouverait que les schémas binaires prédéterminés ne sont pas toujours des schémas opérants et que, en somme, les sociétés locales, les sociétés réelles, peuvent se comporter différemment dans un contexte analogue. Ce qui serait, on arrive à cette conclusion, finalement une conclusion assez encourageante qui montre qu'on n'obéit pas forcément à des mécanismes communautaires, entre guillemets. Je pose la question. La deuxième question à évoquer peut-être très brièvement, c'est le rapport de la société urbaine de Saint-Antonin, car j'insiste, nous avons affaire non pas à une société rurale, villageoise, mais bien à une société urbaine, à la culture en général et, je dirais, à la culture nationale de manière plus précise. Eh bien, je pense que Saint-Antonin, à ce moment-là, est une ville qui, au cours du siècle, au cours du XVIIIe siècle, s'est ouverte au courant de culture et que cette fraction, que l'on peut appeler les élites de la société, y participe. On en a la meilleure preuve dans l'existence, la création d'une société politique et littéraire de Saint-Antonin qui voit le jour en 1779, donc 10 ans avant la Révolution, et dont on conserve les statuts dans les archives, d'ailleurs, dont je parlais. Cette société dit dans son article 1 qu'elle ne sera composée que des principaux citoyens de cette ville. Et on voit bien là, si vous voulez, ce caractère d'affirmation d'une élite qui veut se retrouver entre elles pour échanger autour des choses de l'esprit. Le règlement que définissent ces statuts précise que cette société se réunira quotidiennement. Donc la séance, est-il dit, s'ouvrira tous les jours à midi et se terminera au plus tard à 10h30 du soir. Il y a donc là un lieu de sociabilité où les élites peuvent se retrouver quotidiennement. Pourquoi faire ? Eh bien, essentiellement pour s'informer et éventuellement pour causer. L'article 5 nous dit par exemple que la société aura 2 trésoriers qui, au moyen des fonds qu'ils percevront, et on sait par ailleurs que ces fonds, c'est les cotisations des membres, auront la complaisance de faire venir les ouvrages périodiques qui leur seront indiqués. Et d'autres articles réglementent les prêts qui sont faits aux sociétaires. Donc nous avons, vous le voyez, dans la période qui précède la Révolution, une ouverture à tous les courants d'information, à tous les organes d'information qui peuvent circuler en France et qui vont imbiber, en quelque sorte, le débat local. Je crois que ce point est important. Et je terminerai peut-être par quelques considérations administratives et spatiales. Il est de bon ton de rappeler à répétition, que Saint-Antonin est en Rouergue. D'ailleurs, j'ai vu des plaques à l'entrée de la ville qui mettent Saint-Antonin de Rouergue. Je n'ai rien contre, c'est historiquement vrai. Mais ce que je voudrais quand même dire, c'est que le Rouergue, comme pas mal d'autres provinces, n'avait plus du tout d'existence administrative à la veille de la Révolution. D'abord, ces États provinciaux ne se réunissaient plus depuis le milieu du XVIIe siècle, pas plus que ceux de Quercy, voisins. Que, d'autre part, Saint-Antonin était englobé dans la circonscription administrative royale qui était la généralité, à la tête de laquelle il y avait un intendant, lequel siégeait à Montauban, et qui réunissait en fait le Quercy et le Rouergue. Ce qui veut dire que depuis un siècle et demi, ou presque, Saint-Antonin se trouve englobé dans un espace plus large qu'un Rouergue, où de toute façon sa place dans la basse marche du Rouergue était extraordinairement marginale. J'ajouterai d'ailleurs que la moitié du territoire municipal de Saint-Antonin, toute la partie du Causse est en Quercy, la Bonnette faisant frontière, de même d'ailleurs qu'à Caylus, l'autre moitié est en Rouergue. Je veux dire que cet attachement atavique à une identité provinciale qui a eu son existence au Moyen-Âge ne se justifie plus pour l'époque moderne. Et d'autant moins que, et je terminerai là-dessus, Saint-Antonin a bénéficié d'un certain nombre d'infrastructures et enfin d'une réforme administrative qui l'ont davantage encore inscrite et enracinée dans un espace plus large, qui est un espace unifié. Alors c'est d'abord la politique des routes royales développée par l'intendant de Montauban. Cette politique très énergique qui se développe dans les années 1760 surtout, consiste, pour ce qui nous intéresse, dans la construction de la route de la généralité qui va donc de Montauban à Millau et qui passe par Caussade, par Caylus, par Villefranche, etc. Cette route, évidemment, évitait Saint-Antonin. Et il se trouve que la municipalité, les consuls de Saint-Antonin, n'ont eu de cesse d'obtenir, de rajouter à ce programme, qui était un programme, il faut le dire, d'infrastructure colossale pour les moyens de l'époque, la bretelle qui va permettre de rattacher Saint-Antonin à cette route. C'est la bretelle, la route actuelle qui vient de cette fond et qui date exactement de cette même époque. Ce qui veut dire, si vous voulez, que l'image, je crois, d'un Saint-Antonin Rouerga qui ne regarderait que du côté de Rodez est une image, mais archi-fausse. Je dis ça parce qu'elle traîne encore dans trop de têtes et il faut voir les choses comme elles étaient. En réalité, dès cette époque, c'est la métropole, entre guillemets, la petite métropole à laquelle Saint-Antonin est rattaché, avec laquelle il échange, c'est Montauban. Et c'est déjà le cas, même si administrativement, elle reste encore en dehors jusqu'à la création du département de Tarn-et-Garonne qui ne se fera qu'en 1808. D'ailleurs, l'administration royale avait compris la nécessité de réforme des régions, de réforme provinciale, lorsqu'elle a créé, là aussi 10 ans avant la révolution de 1789, donc en 1779, une assemblée qui épouse les limites de la généralité, mais dans lesquelles on s'efforce de faire délibérer un corps représentatif qui va prendre le nom d'assemblée de Haute-Guyenne. Alors sous ce nom pompeux se cache en fait une assemblée de 52 membres, si je me souviens bien, qui sont en partie choisis par le souverain et en partie cooptés, qui vont se réunir finalement à Villefranche de Rouergue, ce qui rend d'ailleurs les Montalbanais furieux, mais Villefranche a une position plus centrale, et dans laquelle va se développer une entreprise de modernisation de la région qui va prolonger la construction de routes à une échelle plus large, qui va envisager également de développer les transports fluviaux, avec plus ou moins d'ailleurs d'efficacité. Il y a par exemple un projet qui voudrait rendre l'aviron navigable depuis la Guépie. Ce projet, avec la construction d'écluses, etc., etc. Ce projet ne sera jamais mené à terme, et je ne suis pas sûr qu'il ait été extrêmement raisonnable. Même si, précédemment, l'aviron pouvait être utilisé, notamment pour faire par flottage, à partir plutôt de Montricou. Certains disent dans quelques années fastes, même de Bruniquel. Enfin, voilà. Mais donc, des projets dont certains peuvent nous paraître un peu chimériques, et d'autres qui sont novateurs et devanciers, et en particulier le projet d'entreprendre un cadastre général de tous les biens fonciers, terres et autres biens immobiliers, qui servirait de base à une imposition directe. C'était la taille à l'époque. Ce projet va être engagé, il ne sera pas terminé, mais je rappellerai qu'il sera finalement repris à l'échelle nationale par Napoléon. Il ne sera terminé en fait que dans les années 1830. Enfin, ça prouve, si vous voulez, qu'un esprit de redéfinition, de réforme, dirait-on peut-être aujourd'hui, s'est quand même emparé avec la bénédiction royale. C'est Necker d'ailleurs qui a voulu cette réforme de l'ancienne généralité de Montauban, qu'elle a mis en rapport les notables, les élites des divers coins, et qu'elle a fait circuler certainement tout un courant d'informations et de projets qui vont irriguer probablement les débats au cours de la Révolution. Voilà à peu près, si vous voulez, le panorama, vous le voyez très incomplet, que je voulais brosser, mais il est temps maintenant de faire marcher le zoom de l'histoire et de nous focaliser sur Saint-Antonin.
Merci.